Vous écoutez On lit pour vous.
Place à l'agriculture de précision. Un texte de Raphaël Corbeil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Réduire les pesticides, optimiser les fertilisants, planifier l'irrigation ou gérer les mauvaises herbes. Des scientifiques explorent comment drones, robots et intelligence artificielle pourraient transformer l'agriculture. Des robots capables d'enlever les mauvaises herbes. À l'Université du Québec à Rimouski, UQAR, une équipe dirigée par le professeur en informatique Mehdi Adda développe une plateforme robotique modulable destinée notamment au secteur agricole. Il s'agit d'une escouade d'engins terrestres et de drones autonomes, entraînés grâce à l'IA. Yves Roland Kagambega, étudiant à la maîtrise, travaille à l'entraînement de robots capables de reconnaître les mauvaises herbes de façon autonome et de les arracher sans abîmer les cultures. Le système repose sur de nouveaux modèles d'IA appelés Vision Language Action, inspirés des grands modèles de langage développés récemment, comme ChatGPT, et adaptés à la robotique. On entraîne des modèles d'IA à détecter des mauvaises herbes à partir d'images, à les analyser, puis à agir en conséquence, donc à arracher les mauvaises herbes, dit l'étudiant-chercheur. Une fois entraînés, ces modèles sont intégrés aux robots qui exécutent les actions dans le monde réel. Le projet est encore expérimental. L'équipe utilise des maquettes de mauvaises herbes imprimées en 3D pour entraîner les bras du robot. « J'ai monté les imprimantes moi-même », précise l'étudiant. « Nous assurons d'abord un solide entraînement en environnement contrôlé avant d'aller sur le terrain. » À terme, l'objectif est de réduire l'usage d'herbicides en privilégiant une intervention mécanique et ciblée, plus respectueuse de l'environnement. Une application pour la fertilisation des canneberges. Comment aider les producteurs et productrices de canneberges à mieux évaluer les besoins réels en fertilisation des cultures? Actuellement, les producteurs s'appuient surtout sur des recommandations américaines, faute d'études locales adaptées aux conditions québécoises, déplore Paul Sélicourt, professeur à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et membre de l'unité mixte de recherche INRS-UQAR numérique et territoire. Le manque de données précises entraîne souvent le recours à des doses trop élevées et à des applications trop fréquentes, indique-t-il. Son équipe mène des expérimentations dans des fermes situées au lac Saint-Jean et dans le centre du Québec. Avec le soutien du Centre de recherche et d'innovation sur la canneberge, des échantillons sont prélevés et analysés en laboratoire afin de mieux comprendre les besoins des plants. L'équipe s'intéresse aussi à la littératie numérique dans le milieu de la production et du conseil agricole afin de concevoir un outil simple, inclusif et adapté à leur réalité. Cet outil prendra la forme d'une application de cartographie web et mobile alimentée par des capteurs installés dans les champs. Ainsi, selon le stade de croissance des plantes et les données recueillies, l'outil pourra indiquer les quantités appropriées de fertilisants à appliquer. L'idée, c'est d'apporter la bonne dose, au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision, résume l'expert en hydroinformatique, un champ émergent à l'intersection de l'informatique et de l'agriculture. Son approche interdisciplinaire tient compte des dimensions à la fois techniques et sociales des fermes afin d'appuyer la transition vers des pratiques agricoles durables. Une station météorologique connectée. À l'Université TELUC, Essed Sabir, du département sciences et technologies, développe une station météorologique intelligente à faible coût pour aider les agriculteurs et agricultrices à prendre des décisions éclairées sur le terrain. Conçue en collaboration avec Mohamed Sadiq, de l'Université de Casablanca, la station comprend plusieurs capteurs mesurant notamment la température, la vitesse et la direction du vent, l'humidité et la pression atmosphérique. Les capteurs sont reliés à un microcontrôleur capable de calculer, de stocker et de transmettre les données. Le tout est logé dans un boîtier qui peut être intégré à un robot mobile ou à un drone qui survole les champs. L'objectif est de collecter des données précises directement dans les parcelles agricoles, plutôt que de se fier aux stations météorologiques régionales. À l'échelle d'un champ, les conditions peuvent varier sur quelques dizaines de mètres, explique Essed Sabir. Les données sont ensuite analysées par des algorithmes d'intelligence artificielle, IA. Le système peut ainsi détecter certaines anomalies, une plante malade, des mauvaises herbes, et y cibler des zones nécessitant une intervention précise, comme l'application d'herbicides. Cela évite de traiter tout le champ de manière uniforme. Nos recherches montrent que les données locales améliorent la pertinence des recommandations agronomiques, notamment pour éviter la surutilisation d'herbicides ou les applications inefficaces et coûteuses, dit-il. Des modèles pour mieux irriguer la pomme de terre. À l'INRS, Aya Ben Youssef consacre sa maîtrise à l'une des cultures les plus importantes au Québec, la pomme de terre, et plus précisément à son irrigation. Cette plante possède des racines peu profondes et est généralement cultivée dans des sols sableux, explique celle qui travaille avec Karem Chokmani, responsable du laboratoire de télédétection environnementale par drone de l'INRS. L'eau passe à travers rapidement, ce qui rend la culture vulnérable au stress hydrique. Si l'irrigation n'est pas effectuée au bon moment, cela peut entraîner des pertes de rendement. Son projet vise à estimer la réserve utile du sol, c'est-à-dire la quantité d'eau réellement disponible pour la plante. Pour y parvenir, Aya Ben Youssef utilise des données provenant d'images thermiques prises par drone, combinées à des mesures prises au sol par des capteurs de température et d'humidité. Une plante en manque d'eau tend à devenir plus chaude que l'air ambiant. En comparant la température des plants à celle de l'air, il devient possible de détecter un stress hydrique, dit-elle. Les données servent à entraîner des modèles d'apprentissage automatique, soit des programmes capables de repérer des tendances et de faire des prévisions. Les résultats sont présentés sous forme cartographique. Il devient alors facile de visualiser les zones où l'eau est insuffisante. À terme, cet outil pourrait permettre d'irriguer plus précisément, de réduire le gaspillage d'eau et d'adapter les pratiques aux conditions climatiques changeantes. C'était « Place à l'agriculture de précision », un texte de Raphaël Corbeil paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Ce qu'on voit les yeux fermés. Un texte de Mathieu Perrault paru dans la presse en 2026. Quand on ferme les yeux, même dans l'obscurité la plus totale, on voit souvent des formes et des couleurs. Il s'agit de phosphènes, des phénomènes lumineux neuronaux. Des chercheurs tentent aujourd'hui de les utiliser pour améliorer le traitement de la dépression. Les phosphènes sont des hallucinations visuelles, explique Paul Taylor, neuroscientifique à l'Université de Zurich, qui étudie le sujet depuis près de 20 ans. Ça peut être des auras durant des migraines ou des hallucinations visuelles avec certains troubles comme le Parkinson ou l'épilepsie, ou simplement quand on ferme les yeux dans l'obscurité et qu'on voit faiblement des formes et des couleurs. Il est aussi possible de créer des phosphènes sous forme d'éclairs lumineux quand on fait de la stimulation magnétique transcrânienne. Le psychologue de Zurich travaille lui-même sur les phosphènes causés par la stimulation magnétique transcrânienne. Ça nous donne une mesure de l'excitabilité des neurones du cortex visuel du cerveau, dit-il. Il est possible que l'excitabilité des neurones des différentes régions du cerveau soit corrélée, dit M. Taylor. Si c'est le cas, une mesure de l'excitabilité des neurones du cortex visuel pourrait servir à calibrer la stimulation magnétique transcrânienne agissant sur d'autres zones du cerveau, responsables par exemple de troubles comme la dépression ou le Parkinson. Pour avoir un effet clinique, la stimulation magnétique transcrânienne doit avoir le bon angle, la bonne intensité et agir au bon endroit du cerveau, poursuit M. Taylor. Il se peut aussi que deux patients aient une excitabilité des neurones différente et qu'il faille adapter ces paramètres d'un patient à l'autre. L'étude des phosphènes générés par la stimulation magnétique transcrânienne permet aussi de comprendre comment les différentes régions du cerveau interagissent face à cette stimulation, indique M. Taylor. Les phosphènes permettent de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on fait de la stimulation magnétique transcrânienne, illustre Charlotte Marshall, une neuroscientifique à l'Université de Birmingham qui étudie aussi les phosphènes dans ce cadre. Actuellement, on a une efficacité de 50 % pour la dépression. Il faut arriver à comprendre comment l'améliorer. Selon une étude publiée en janvier dans Biological Psychiatry Global Open Science, la stimulation magnétique transcrânienne a un effet sur 46 % des patients dépressifs et mène à une rémission de la dépression chez 28 % des patients. Miroir des neurones. Nous ne savons pas encore clairement quelles régions du cerveau doivent être activées pour générer des phosphènes, dit M. Taylor. Ce mystère entoure aussi les phosphènes plus légers qui sont générés quand on ferme les yeux dans l'obscurité, par exemple durant un moment d'insomnie en plein milieu de la nuit. Quand on est en plein jour ou qu'il y a de la lumière, on voit à travers nos paupières ou alors l'image du dernier objet vu reste imprimé quelques instants dans notre rétine. Mais quand on est dans le noir depuis longtemps, il faut que les phosphènes soient le reflet de l'activité des neurones du cerveau, cite Paul Taylor, neuroscientifique à l'Université de Zurich. Les phosphènes des insomniaques sont donc l'une des rares manières accessibles à la plupart des humains de « voir » leur cerveau travailler, disent M. Taylor et Mme Marshall. Il se peut que ce soit une tentative du cerveau de voir des choses alors qu'il ne le peut pas, dit Mme Marshall. Les neurones continuent à être actifs même quand il n'y a pas de mouvement et de stimuli extérieurs. Des phosphènes plus actifs ont été rapportés par des astronautes sur la Station spatiale internationale et leur utilisation est envisagée pour calibrer des prothèses visuelles qui, éventuellement, pourraient restaurer la vue sans intervention chirurgicale. Les phosphènes dans l'espace sont probablement dus au fait que les radiations solaires sont plus intenses. Sur Terre, le champ magnétique terrestre bloque une bonne partie de ces radiations solaires. Méditation. Ces phosphènes naturels sont une composante essentielle de l'expérience spirituelle, selon Jan Hasselink, un biologiste néerlandais qui a fait carrière en psychopharmacologie de la douleur avant de s'intéresser depuis quelques années aux phosphènes. Les hallucinations visuelles font partie de la vie des mystiques depuis Hildegard de Bingen, une bénédictine du XIIe siècle et les premiers maîtres bouddhistes, dit M. Hasselink. Les choses qu'on voit dans l'obscurité sont universelles. Les chrétiens parlent d'anges, le yoga de lumière intérieure. C'est une manifestation biologique de la conscience, de l'activité du cerveau qui est universelle. De plus en plus de yogis proposent des techniques de méditation de phosphènes, où on se concentre sur ce qu'on voit les yeux fermés plutôt que sur ses sentiments et pensées, note M. Hasselink. Les phosphènes sont un phénomène réel. C'est un peu comme quand on regarde un ciel très étoilé. Beaucoup de gens ont un sentiment bien réel, soit de communion avec l'immensité, soit de paix. Je pense que l'étude des phosphènes naturels va nous amener à beaucoup mieux comprendre l'expérience humaine. M. Hasselink aimerait par exemple que des études vérifient quelle proportion de la population voit des phosphènes quand elle ferme les yeux dans l'obscurité et si cette capacité est liée à certains traits de personnalité ou biologique. Les phosphènes ont par ailleurs fait l'objet de réflexions artistiques, notamment à partir des premières descriptions par les anatomistes européens du 19e siècle, Hermann von Helmholtz et Jean Purkinje. Un film artistique, Le cinéma du prisonnier a été diffusé en 2008 à partir des descriptions de phosphène durant les expériences d'isolement sensoriel conduites à l'Université McGill en 1954. C'était « Ce qu'on voit les yeux fermés », un texte de Mathieu Perrault paru dans la presse en 2026.
La remise en cause des politiques climatiques par Trump se déplace devant les tribunaux. Un texte de Nick Perry de l'agence France-Presse paru le 25 juin 2026 dans Le Devoir. Le démantèlement des réglementations fédérales par le président américain Donald Trump a suscité une vague sans précédent de poursuites judiciaires visant à défendre les mesures de protection du climat, selon une nouvelle analyse mondiale des tendances en matière de contentieux publiée jeudi le 25 juin 2026. Si cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis, des batailles juridiques similaires concernant le démantèlement de politiques climatiques se jouent également à l'échelle mondiale, dans des proportions sans précédent, indique le rapport. Entre 2025 et 2026, le mouvement pour le climat a réagi à ce recul, a déclaré à l'agence France-Presse Johanna Setzer, co-autrice du rapport et chercheuse au Grantham Research Institute de la London School of Economics, disant observer une augmentation des contentieux contestant la déréglementation. Ces actions en justice, défensives, ne visent pas à fixer de nouveaux objectifs climatiques, mais à maintenir en place des politiques ou des engagements durement acquis, a-t-elle précisé. En 2025, une nouvelle action en justice sur 5 liée au climat aux États-Unis relevait de cette catégorie, une forte augmentation par rapport au premier mandat de Donald Trump. Cela constituera un domaine crucial à suivre tout au long de l'année 2026, souligne le rapport. Mais un nombre important d'affaires similaires ont été engagées hors des États-Unis en 2025, notamment en Europe et au Brésil, est-il ajouté. Des actions qui se multiplient. Dans les dernières années, les tribunaux sont devenus un terrain d'affrontement majeur dans la lutte pour une action climatique plus ambitieuse. Plus de 3600 actions en justice liées au climat ont été engagées au cours des 40 dernières années, la très grande majorité d'entre elles aux États-Unis, et la plupart ont vu des recours déposés depuis 2015, année de l'accord de Paris sur le changement climatique. Des militants ont notamment poursuivi des entreprises d'énergie fossile et se sont tournés vers La Haye pour tenter de tenir les gouvernements pour responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre. En 2025, dans une décision historique, la Cour internationale de justice a déterminé que les États avaient l'obligation, en vertu du droit international, de lutter contre le changement climatique. Un tribunal français doit trancher sur si le géant pétrolier et gazier Total Energy a manqué à son obligation légale de gérer les risques environnementaux dans le cadre d'une affaire climatique très suivie. Le contentieux climatique se développe et arrive à maturité, note le rapport. La Grenade, le Guatemala, le Kazakhstan, la Malaisie, Singapour et la Zambie ont enregistré leurs premières affaires liées au climat en 2025. Évolution préoccupante. Toutefois, des opposants ont également eu recours au droit pour entraver l'action climatique. Le rapport souligne l'ampleur, la coordination et l'ancrage institutionnel croissant de ces initiatives. Il cite le Stop Climate Shakedowns Act, projet de loi américain qui vise à protéger les entreprises polluantes contre des poursuites judiciaires. Cette nouvelle évolution préoccupante pourrait restreindre l'accès à la justice et a inspiré des mesures similaires en Nouvelle-Zélande et en Allemagne, a précisé Johanna Setzer. Certains surveillent ce qui se passe. C'est le genre d'idée qui a tendance à faire des émules. Le rapport met également en lumière la multiplication des poursuites visant les centres de données pour l'intelligence artificielle, notamment en Irlande, où ces installations absorbent une part importante de la demande énergétique nationale. Il s'agit du prochain domaine appelé à connaître une croissance massive aux États-Unis et dans le monde, à mesure que les citoyens contestent devant les tribunaux les répercussions climatiques de ces infrastructures, indique Catherine Higham, co-autrice du rapport. Les projets de captage et de stockage du dioxyde de carbone ainsi que les fabricants de plastique sont également désignés comme des cibles émergentes de futurs contentieux. C'était « La remise en cause des politiques climatiques par Trump se déplace devant les tribunaux », un texte de Nick Perry de l'agence France Presse paru le 25 juin 2026 dans Le Devoir.
Répétitif, mais captivant. Un texte de Raphaël Derome, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Les pavages sont un riche objet d'études mathématiques, et des découvertes récentes permettent de repousser les limites en architecture. Déjà, il y a 4000 ans, les Sumériens décoraient leurs maisons et leurs temples de petites tuiles d'argile. Puis, mosquées marocaines et palais romains ont été richement ornés de motifs géométriques en pierre, en marbre ou en céramique. Depuis des siècles, ces pavages sont des objets de fascination en mathématiques. Car on cherche et trouve sans cesse de nouvelles formes de tuiles et de nouvelles façons de les agencer pour couvrir une surface sans aucun chevauchement ni espace vide. Et on n'arrête pas le progrès. Les architectes d'aujourd'hui adorent les bâtiments courbés aux formes originales et découvrent comment recouvrir ces façades de façon simple et économique. C'est une innovation mathématique d'il y a moins de 20 ans qui a permis d'y arriver. La géométrie différentielle discrète, élaborée par l'Autrichien Helmut Potman et le Russe Alexander Bobenko. Si la géométrie différentielle existe depuis des siècles et permet de décrire la forme de courbes lisses et continues, la version discrète permet de décrire presque les mêmes courbes à l'aide d'une multitude de courts segments. La géométrie différentielle discrète nous a donné les outils mathématiques pour construire de grands murs courbes à l'aide de petits morceaux plats de forme simple, explique Daniel Hambleton, mathématicien formé à McGill. C'est l'approche qu'il a utilisée avec sa firme de consultants en géométrie, MESH Consultant, pour déterminer comment juxtaposer les 8000 triangles de verre et d'aluminium qui recouvrent la façade arrondie du Bergeron Center. Ce pavillon de l'Université York de Toronto, inauguré en 2016, abrite l'école d'ingénierie. Même si le motif final est irrégulier, il ne se compose en fait que de trois types de triangles qui se répètent, précise Daniel Hambleton. Cela permet de standardiser la fabrication des panneaux de verre et d'aluminium. Les lois de la géométrie ont ainsi permis de réduire les coûts de construction en optimisant le motif. L'équipe a utilisé l'espace minime, de 10 à 20 mm, entre les triangles de verre et les pièces qui les connectent à la structure. C'est en jouant avec cet espace qu'on a pu réussir à incliner les panneaux et ainsi créer la courbure désirée, sans que l'œil remarque les espaces, bien sûr. Savant algorithme. C'est grâce à la conception dite paramétrique qu'il a été possible d'arriver à de tels résultats. Plutôt que de concevoir la façade comme un ensemble de points et de droites, ce qui oblige à tout recommencer à la moindre modification, Daniel Hambleton a décrit mathématiquement les relations géométriques entre les composantes du bâtiment. Il me suffisait de changer quelques paramètres pour rapidement mettre à jour le positionnement précis des milliers de triangles en étant certain que tout fonctionnerait bien, poursuit le consultant. Je suis toujours frappé de voir que la recherche en mathématiques, même dans des domaines abstraits, arrive parfois à quitter le monde universitaire pour servir dans le concret. C'est une chose très curieuse, s'étonne Daniel Hambleton. Modernité et tradition. L'informatique pourrait aussi contribuer à rendre les bâtiments plus éco-énergétiques, croit Mana Dastum, candidate au doctorat à l'Université polytechnique de Madrid. Originaire d'Iran, elle s'intéresse particulièrement aux façades perforées de motifs géométriques utilisées traditionnellement dans les pays chauds et arides, Iran, Inde, Afrique du Nord, pour filtrer la lumière solaire, limiter l'éblouissement et faciliter la circulation d'air. Les façades sont capitales pour la performance énergétique, mais il y a encore peu de recherches sur les conséquences de choisir tel ou tel motif, explique-t-elle. Elle souhaite donc mener des simulations où elle fera varier la forme et la taille des orifices, leur espacement, l'épaisseur et l'orientation de la façade. Le but est d'allier esthétique et performance. Il y aurait des bénéfices potentiels, même dans les climats froids, précise-t-elle. Par exemple, en maximisant le chauffage passif en hiver. C'était « Répétitif mais captivant », un texte de Raphaël Derome, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.